Bonjour, Andreas Ramatian, enseignant à l'Université de Glasgow, est venu présenter son livre « Lord Kempis, Legal and Social Theorist » à l'Institut d'études avancées de Nantes, où il fut résident. En travaillant sur le concept de propriété, Andreas Ramatian a étudié l'œuvre écrite de Lord Kempis, juriste et philosophe, né en 1696 et mort en 1782, l'une des figures des Lumières écossaises.
Je suis juriste avec la spécialisation du droit comparé et l'histoire du droit, parce que le droit comparé et l'histoire du droit sont vraiment liés. Et je l'ai découvert parce que je ne suis pas écossais, effectivement. Et les juristes écossais le connaissent, mais ils ne s'intéressent pas vraiment à Lord Kempis parce que c'est un personnage du XVIIIe siècle. Et pour moi, c'était nouveau. C'est toujours comme ça, on arrive n'importe où et pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Et j'ai aussi commencé à travailler sur la question de la propriété, les concepts de la propriété. Et lui aussi, Lord Kempis, a commencé de développer une théorie sociologique, mais aussi juridique de la propriété qui, moi, je crois, est très intéressante. Et c'est pourquoi j'ai commencé à faire mes recherches sur Lord Kempis. Et j'ai trouvé que c'était un homme universel, vraiment un touche-à-tout. Et il a écrit sur l'esthétique, les lettres, les arts, la philosophie, beaucoup, le droit, bien sûr, l'histoire du droit, la sociologie et tout ça. Au 18e siècle, c'était assez normal. Maintenant, c'est totalement inconnu parce que les gens sont totalement spécialisés. Et lui était absolument le contraire. Et il a montré que le droit, c'est vraiment une partie des sciences humaines, des sciences sociales. Et pas quelque chose d'abstrait qui est étudié d'une façon séparée des autres disciplines. Et c'est absolument fascinant, toujours.
Il est présenté comme autodidacte.
Oui. Effectivement, il était autodidacte parce qu'il n'a pas un diplôme, il n'a pas étudié à l'université. C'est à cause aussi de l'argent, vraiment, parce que sa famille n'était pas riche. Mais il traînait comme avocat. C'était possible, ce n'était pas nécessaire d'aller à l'université, de faire ses études à l'université. Et il a fait ça. Et puis, il était effectivement autodidacte. Ça voulait dire aussi qu'il n'était pas influencé trop par les méthodes de pensée de l'université et il n'était pas déformé, effectivement, non plus. Il pouvait être critique et libre. Et il était juriste aussi et juge. Et ça lui a donné une position assez sûre, effectivement. Et c'est ce qu'il a fait. Il était intellectuel indépendant. Ça, c'était assez courant aussi au XVIIIe siècle, parce qu'avec Rousseau, c'était exactement la même chose. Les Lumières écossaises, c'est une ère de pendant 1740-1780. L'influence de la France était énorme, je crois. Normalement, les chercheurs en Écosse ne s'aperçoivent pas vraiment de ça. C'est à cause de la langue aussi, peut-être, parce qu'ils ne parlent pas français, il est bien possible. Mais effectivement, il y a une grande influence de Montesquieu à Lord Kempis, à David Hume, tout ça. Aussi Rousseau et aussi Voltaire, bien sûr. Mais il y avait aussi une influence après, des Écossais en France et surtout en Allemagne. Immanuel Kant, Moses Mendelssohn, Herder. Et Lord Kempis en particulier, parce qu'il était un peu plus aîné que David Hume ou Adam Smith. Adam Smith, David Hume était... David Hume moins, mais Adam Smith était énormément influencé par Lord Kempis, parce que Lord Kempis était effectivement un mécène. Et Adam Smith était aussi un élève. Et la méthode de pensée d'Adam Smith était vraiment profondément influencé par Lord Keynes. Mais Adam Smith, bien sûr, était influencé par Keynes, aussi par Voltaire. Quand Adam Smith était en France, il a rencontré Voltaire, il a rendu visite à Ferney Voltaire, bien sûr. Apparemment, son français était épouvantable. Selon David Hume, nous avons ça, des lettres de David Hume sur Adam Smith, effectivement, mais apparemment ça marchait bien. Et Adam Smith était dans les salons français parce que Paris, bien sûr, était le centre des Lumières, sans doute. Mais l'influence écossaise était considérable, surtout en Allemagne, mais un petit peu aussi en France. C'était double direction, effectivement. Critique, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'influence des Lumières écossaises à en Écosse aujourd'hui, je crois. C'est vraiment une Écosse nationaliste et pas une universaliste contre les idées des Lumières, et des Lumières écossaises surtout. L'Angleterre était énormément importante pour les Français. Ils sont énormément anglophiles, comme Voltaire, comme Diderot. Voltaire parlait bien l'anglais. Il ne parlait pas l'allemand. Il a refusé d'apprendre l'allemand, mais il a parlé bien l'anglais. Et l'Angleterre était très importante pour la formation des Lumières françaises. Mais l'Écosse était influencé un petit peu par l'Angleterre sur Locke et Berkeley, Locke, mais Hume, c'était écossais en tout cas, écossais un petit peu français. C'est toujours la question que Hume est trop français parce que sa formation était vraiment en France. Les idées intellectuelles, ce n'est pas vraiment une idée anglaise. Ça existe, mais ce n'est pas quelque chose de grande importance dans les sociétés aujourd'hui par rapport à la France. C'est une opposition. Bien sûr, il y a des intellectuels en Angleterre, mais ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment important. Et c'est pourquoi il est aussi difficile de dire qu'il y a une influence intellectuelle de cette façon et de cette façon-là, parce que ce n'est pas vraiment. Les gens ne s'en rendent compte pas de ça, vraiment. C'est très difficile de dire. Et avec l'Écosse, maintenant, ils sont très intéressés à l'idée du nationalisme, une question d'indépendance, et ce n'est pas vraiment les idées des Lumières.
Comment on pouvait, parce qu'on parle de lumière, nous éclairer sur la pensée de Keynes?
Il est, bien sûr, il est un personnage historique, mais pas seulement comme ça. Mais pour moi, il est très important toujours, parce qu'il est le seul juriste. C'est peut-être une question de la discipline aussi. Normalement, les juristes sont les juristes qui étudient les lois et les arrêts, et c'est ça, et pas vraiment la sociologie sous-jacent, ce n'est pas vraiment ça. Et Keynes est exactement l'inverse, c'est la philosophie, la sociologie, le développement, le progrès, l'histoire, et tout ça, c'est un mélange. Et le droit, c'est une partie de tout ça. Et ça, c'est intéressant toujours, je crois, parce qu'il n'y a presque personne qui a fait ça du 19e siècle au 20e siècle, parmi les juristes, même les juristes qui sont énormément connus et fameux comme Kelsen ou des autres. Et cette approche est toujours intéressante. Et l'autre partie où il y a une influence indirecte, c'est, je crois, avec l'idée ou la philosophie, ou peut-être aussi l'idéologie du marché. Parce qu'il y a l'idée avec Lord Keynes, c'est la philosophie morale des Lumières écossaises et des Écossais, vraiment. Il y a un sens moral, et ce sens moral est inné. Et ce sens moral nous donne la capacité de distinguer le bon du mal. Automatiquement, ce n'est pas une question d'expérience, c'est inné. Et ça, c'est aussi la base de justice, mais c'est aussi la base d'idée de commerce, effectivement. L'idée du marché, c'est aussi une idée de justice. Et on trouve exactement cette idée avec Adam Smith, qui était vraiment influencé de Lord Keynes. Et les économistes aujourd'hui ne s'en rendent compte pas de cette idée morale, philosophique morale, comme fondation aujourd'hui. Mais c'est effectivement cette idée assez mécaniste, déterministe du marché, avec les forces du marché qui sortent, qui marchent bien, qui sont justes d'une certaine façon. Et ça, c'est une influence qui existe toujours d'une façon indirecte vers Adam Smith et éventuellement vers Lord Keynes. C'est toujours là.
Je vais faire un anachronisme, mais s'il vit aujourd'hui, ce serait plutôt un antilibéral.
Lord Keynes, c'est difficile à dire parce que c'est vraiment un anachronisme, parce que l'idée du libéralisme, c'est un concept du 19e siècle.
Et puis ce n'est pas tout à fait le même sens dans les pays anglo-saxons.
Il est plutôt un libéral de l'idée anglo-saxonne. Il était aussi conservateur, il était tous les deux. C'était, en ce qui concerne le commerce, le progrès, le développement des sciences naturelles, tout ça, il était certainement whiggish pour le progrès et libéral, mais il était aussi conservateur en ce qui concerne la pédagogie et des choses comme ça. Il était très influencé par Rousseau directement, l'Émile et tout ça. Pas vraiment par le contrat social, mais par l'Émile de Rousseau. C'est intéressant. Il y a tous les deux possibilités. Sinon, c'est difficile de dire qu'il est libéral. Il est aussi conservateur, mais il est très logique. Et il pense d'une méthode logique, même s'il y a des problèmes et des résultats qui ne sont pas vraiment agréables. À l'époque, par exemple, qu'il a dit que si Dieu a fait le monde, ça veut dire qu'il a aussi fait le mal, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour le mal entre le monde, si ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Il a eu beaucoup de problèmes à l'époque, bien sûr. C'est vraiment une idée logique, et il a fait ça avec beaucoup de conséquences. Est-ce que c'est conservateur? Est-ce que c'est une idée libérale? C'est difficile de dire. Lord Keynes était contre l'idée que les Noirs sont une espèce trop sauvage. Il n'y a pas de différence entre nous et eux. C'est totalement différent de David Hume, par exemple. Et quand il était juge, il a dit que l'esclavage est contre la loi en Écosse. Il a dit ça totalement, strictement, sans des qualifications. En ce qui concerne ça, il était assez moderne. En ce qui concerne la question, la position de la femme dans la famille, il était absolument conservateur. Ça dépend vraiment du sujet.
Qu'est-ce qui fait qu'il soit moins connu qu'Adam Smith, par exemple?
Il était énormément connu.
Alors je dis aujourd'hui, alors.
Aujourd'hui, oui. Il était énormément connu au XVIIIe siècle, et on peut commencer ou recommencer avec le XVIIIe siècle en tout cas, parce qu'on connaît Voltaire. Oui, ça dépend de la formation, de l'intérêt, bien sûr, mais on connaît Voltaire. Et il y a un grand conflit entre Voltaire et Lord Keynes sur des questions esthétiques. On connaît Montesquieu, on connaît Adam Smith, et on peut commencer vers ces personnages de reconnaître Lord Keynes. Et je crois que ça vaut la peine, vraiment.
C'est un lord.
Oui, mais ça ne veut rien dire, parce que c'est toujours la situation. En Angleterre et en Écosse, quand on devient juge, on peut choisir un titre. Et le titre est normalement le titre d'où on vient, vraiment la place de naissance. Et on reçoit aussi le titre lord. C'est toujours comme ça avec les juges. Aujourd'hui, c'était la même chose, bien sûr, au XVIIIe siècle.
Andreas Ramathion, auteur de Lord Keynes, Legal and Social Theorist, est l'invité du magazine.
mon livre, ce n'est pas une biographie, parce que moi, je m'intéressais vraiment à ses pensées et pas vraiment ses détails de sa vie, quand il a acheté cette maison-là et ce patrimoine, tout ça, ce n'est pas vraiment intéressant. Mais il n'avait pas de recherche vraiment qui est extensive sur ses pensées. Ça n'existait pas. Jusqu'à maintenant.
Vous êtes le spécialiste de Kemps?
Oui, parce qu'il n'y a personne qui l'a essayé. Bien sûr, je suis le seul spécialiste, peut-être. Et j'espère qu'il y aura des gens qui sont plus intéressés à Kemps et ça va peut-être déclencher un intérêt plus fort pour Kemps.
Il y a un projet de traduction en France?
Je ne sais pas, non, je ne crois pas, pas à ce moment, peut-être.
Mais ça veut dire qu'on est trop franco-centré?
C'est la même chose avec l'Angleterre, vraiment. Ils sont trop anglo-centrés, parce que moi, j'étais énormément... C'était vraiment intéressant de trouver, et j'étais vraiment étonné que Voltaire aussi, ses œuvres sur la religion très critiques étaient utilisées par Kemps. Bien sûr, il ne cite pas Voltaire, mais il utilise beaucoup. Et personne n'a vu ça, personne ne s'aperçoit de ça, pas du tout, en Angleterre ou en Écosse. Et je crois que c'est aussi parce que personne ne parle français, vraiment. À l'époque, les gens qui étaient vraiment des intellectuels parlaient l'italien et le français, bien sûr. Mais maintenant, on ne parle pas vraiment les langues étrangères, vraiment. L'allemand, c'est effectivement fini. Le français, ce n'est pas beaucoup. C'est plutôt l'espagnol, mais pas le français, vraiment, maintenant.
Merci à Andreas Ramathion, auteur de Lord Kemps, Legal and Social Theorist, pour sa libre participation à ce magazine, réalisé avec la complicité de l'Institut d'études avancées de Nantes, qui pour les chercheurs est un lieu d'accueil et de résidence.
L'année dernière, c'était énormément fascinant parce que les contacts avec des résidents qui sont des disciplines totalement différentes de moi, c'est un petit peu que Lord Kemps, ça. Et c'était absolument fascinant de discuter avec eux. Et l'Institut, c'est énormément gentil et très ouvert. Et le soutenance, c'est énorme. Et c'est toujours un choc de revenir dans son propre travail avec l'administration et tout ça, tout ça. Et c'est pourquoi c'est toujours bon de revenir pour une semaine ou quelque chose comme ça. Avoir un bon temps ici, un bon échange avec des résidents. J'ai eu un échange déjà hier avec un résident nouveau. Sur une question de la propriété intellectuelle en Afrique et des choses comme ça, c'est absolument fascinant. C'est une place absolument merveilleuse. Et c'est aussi, je crois, un outil absolument important pour la ville parce qu'ils sont à Nantes et c'est aussi une marque en tant que ville parce qu'il y a des instituts, des études avancées, mais ça c'est un institut vraiment spécial et je crois que c'est très attractif pour Nantes aussi, comme ville, et aussi pour l'université, je crois, parce que les intellectuels, aussi les académiciens, et bien sûr, ils ont des contacts avec les universités aussi.